Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Quand j'ai créé ce podcast, j'avais à cœur d'aborder un sujet dont on parle peu, les funérailles des personnes dépourvues de ressources. Qu'est-ce qui se passe pour elles? Où est-ce qu'elles sont enterrées? Qui prend leurs funérailles en charge? Bref, autant de questions auxquelles je souhaitais trouver des réponses. Et pour cela, j'ai rencontré plusieurs interlocutrices et j'ai décidé de vous proposer deux épisodes sur ce thème. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Sandrine Chapelle, qui est directrice générale des services funéraires de la ville de Paris, et elle va nous parler de ce qui est mis en place à Paris pour les funérailles de personnes démunies, soit au niveau financier, soit au niveau social, ou les deux. Et puis le deuxième épisode, eh bien, lui sera consacré au collectif Les Morts de la Rue. Bonne écoute. Bonjour Sandrine Chapelle.
Bonjour.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, de ce qui vous a amené à travailler dans le funéraire?
Un parcours un peu atypique, comme toutes les personnes qui travaillent dans le funéraire, je pense, beaucoup de hasard. J'ai travaillé dans une grosse société d'intérim chez Manpower pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai travaillé dans l'assurance, donc groupe mutualiste, et ensuite aux assurances générales de France à l'époque, donc pendant une dizaine d'années, où j'étais en province, et puis voilà... Un jour pas comme un autre, j'ai vu une petite annonce dans un journal de presse qui cherchait un responsable pour porter le développement d'une société qui dépendait de la ville de Paris et qui avait quelques rapports avec le funéraire. Sans plus de détails, j'ai découvert qu'il existait des sociétés en charge du funéraire et je suis rentrée dans cette entreprise en 1999. Donc ça fait déjà pas mal de temps. J'ai commencé à créer le réseau commercial, le réseau d'agences, pour recevoir les familles, organiser les obsèques. Et puis après, mon champ de compétences s'est étendu sur tout le domaine de la qualité. Et puis un peu plus après, au niveau des crématoriums, je suis devenue directrice générale adjointe. Et au départ du directeur général antérieur, quand il est parti en retraite, ben voilà, on m'a proposé de prendre ses fonctions, ce que j'ai accepté avec plaisir.
Alors en fait, j'ai découvert l'existence des services funéraires de la ville de Paris en faisant mes recherches pour réaliser cet épisode sur les morts isolées. Et sans rentrer dans le détail de la structure juridique, il me semble quand même important de dire pourquoi il s'agit d'une société d'économie mixte. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une société d'économie mixte ?
Donc, société d'économie mixte, ça veut dire qu'on fonctionne comme une société privée. On a un conseil d'administration, on a des objectifs à tenir, on est de statut privé. Mais notre actionnaire majoritaire est obligatoirement un représentant d'un service public, donc la mairie, l'État, la région. En l'occurrence, pour nous, c'est la ville de Paris. Et donc, la mairie détient 84% de notre capital.
Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a motivé la création d'une telle société par rapport au marché du funéraire de l'époque et des besoins des Parisiens ?
La ville a souhaité créer une société d'économie mixte à la fin du monopole, puisqu'avant, il y avait un monopole public pour l'ensemble de l'activité funéraire sur toute la France, donc jusqu'en 93, la loi de 93. Et donc, la ville, à cette époque-là, avait une régie municipale. Donc, c'est la régie municipale qui fournissait les porteurs, les cercueils et les corbillards pour toutes les obsèques à Paris, avec un prix qui était défini par la ville de Paris. 93, loi de fin du monopole, la ville a souhaité rester active dans ce domaine pour plusieurs raisons. déjà pour garder une main un peu sur la politique de concurrence et de prix sur Paris, avoir un outil qui permette de peser sur les prix et d'éviter un emballement d'augmentation des prix, d'avoir aussi un outil qui serve de référence en termes de qualité, de recherche sociétale, d'évolution des pratiques, etc. Et puis aussi pour garder la main justement sur le sujet qui vous intéresse, qui est la prise en charge des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Donc c'était nos trois premières missions et qu'on continue donc aujourd'hui à exercer dans un domaine concurrentiel. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'avantage par rapport aux autres concurrents privés.
D'accord. Donc, pour ce qui est des prestations funéraires, on va dire classiques, elles sont du même ordre que ce que l'on peut trouver chez d'autres prestataires, en fait.
Tout à fait. On exerce les mêmes métiers, on fournit les mêmes prestations, on organise des obsèques de A à Z en fournissant des corbillards, des cercueils, des porteurs, etc. pour tous les Parisiens et autres usagers qui font appel à nos services.
Alors, venons-en au cœur du sujet de cet épisode, hein, les funérailles de personnes isolées ou dépourvues de ressources. Quand et comment ce dispositif a-t-il vu le jour ?
En 98, les convois sociaux, c'est-à-dire les convois individuels financés par la ville de Paris pour les personnes qui n'avaient pas de ressources suffisantes, n'existaient pas. Il n'y avait que ce convoi, l'obligation du maire, quoi. La personne décède sur le territoire, il n'y a personne pour s'occuper des obsèques et il n'y a pas de revenus, donc la commune s'en occupe. Il n'y avait que ça comme prestation 98. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Et donc, avec la ville, on remonte l'information, on remonte les situations, et la ville, du coup, travaille à des solutions pour améliorer les choses. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a eu ces prestations qui ont été développées à partir des années 99 ou 2000, très vite après. Hein.
Et on parle de quel type de prestations, alors ?
À Paris, il y a deux systèmes qui ont été mis en place. Il y a les personnes, comme vous et moi, qui peuvent ne pas avoir les ressources suffisantes pour financer des obsèques au moment du décès, mais qui sont pour autant pas esselées. Le prix moyen des obsèques qu'il faut compter entre 4 et 6 000 euros. Et il y a malheureusement peu de Français qui disposent de cette somme-là en cash immédiate. 4-6 000 euros, c'est énorme hein, à sortir et à financer. Donc la ville de Paris a très vite mis en place un système d'aide sociale, entre guillemets. C'est-à-dire toute personne qui dispose d'une imposition de moins de 992 euros annuels peut s'adresser à un service social de la ville. Et une fois qu'elle a justifié de son niveau d'imposition et de l'incapacité donc à financer les obsèques, elle va être adressée à nos services et la ville de Paris a défini un cahier des charges de prestations que nous mettons en œuvre pour un prix modique, c'est-à-dire que la famille va payer entre 350 et 400 euros les obsèques, 80% du financement étant assuré par la ville de Paris. Voilà. Mais c'est cadré, c'est-à-dire qu'on met des prestations de qualité. Par exemple, c'est un cercueil écologique. C'est pas un cercueil en pin le moins cher. C'est un cercueil écologique, un capiton écologique. On peut aller au cimetière de Thiers ou de Pantin. On peut acheter une concession 10 ans. On peut même faire un rapatriement. Aller dans une concession existante si elle existait avant le décès. Mais, par exemple, on va pas pouvoir acheter une concession perpétuelle au Père-Lachaise.
Hein. Oui, d'accord.
Voilà. Donc les prestations sont cadrées. Pour que ça soit raisonnable, mais de qualité pour l'ensemble des Parisiens. Et ça, tout le monde y a droit. Et on organise les convois exactement comme pour une famille tout à fait, qui a les moyens de financer ses obsèques. La famille choisit son agence. Si ça lui fait plaisir d'aller dans notre agence du 16e, elle y va. On organisera avec elle en fonction de l'heure qu'elle souhaite. Donc, c'est une forme de prestation sociale. Et c'est ce qui représente la plus grosse part de ce qu'on appelle les convois des personnes dépourvues de ressources.
Donc ça, c'est le premier dispositif, les convois sociaux. Et donc, quel est le deuxième ?
Après, il y a les personnes dépourvues de ressources financières et relationnelles, hein, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment tout seuls et dont personne ne s'occupe ou dont on ne retrouve pas de famille au moment des obsèques. Alors, généralement, ces personnes-là, elles sont identifiées dans un ensemble de prestations qu'on appelle les réquisitions sur ordre de police. Et donc, on va chercher les défunts sur ordre de police parce qu'ils sont décédés dans les domiciles ou sur la rue. Mais à ce moment-là, on ne sait pas quelle est leur situation. Ça peut être des gens qui vont avoir de la famille et de l'argent, qu'on va retrouver après, mais ils étaient tout seuls dans leur domicile à ce moment-là. Ça peut être des gens dont on suspecte les conditions de décès comme étant anormales. Donc, on va les transporter à un institut médico-légal, on va faire une enquête, mais il va y avoir de la famille, etc., etc. Donc, sur toutes les réquisitions qu'on fait, il y a une petite partie qui sont des personnes qui n'ont pas de famille ou pas de relation et pas d'argent. Mais généralement, quand on organise les obsèques des personnes qui sont dépourvues de ressources suffisantes, relationnelles et financières, on va les retrouver à l'Institut médico-légal. C'est la petite partie des personnes qu'on aura été chercher dans le cadre de ces réquisitions. Mais on va aussi organiser des établissements hospitaliers. Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui sont malades, qui vont aller dans un hôpital et qui vont décéder dans l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va faire les recherches de famille. On va se rendre compte qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de proches pour s'occuper des obsèques. Et là, c'est pareil, les établissements hospitaliers vont nous contacter en disant, ben voilà, ça fait 10 jours, on a fait les recherches nécessaires, on trouve personne. Et donc, ils vont nous demander une inhumation par voie administrative, ce qu'on appelle une inhumation par voie administrative. C'est-à-dire, il n'y a pas de famille. Donc, c'est la ville qui prend en charge l'organisation de ces obsèques.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de décès que ça représente chaque année ?
Paris étant une ville avec une population relativement importante et puis un maillage hospitalier aussi très fort, fait qu'on a une proportion de défunts plus important que quasiment n'importe où en France, ce qui est logique. Hein. C'est 1% de la population, donc il y a environ 17 000 décès par an à Paris. Les convois sociaux représentent par an, donc les convois des personnes dépourvues de ressources financières. Mais quand il y a des gens qui accompagnent, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés à financer les obsèques, ça représente environ 300 personnes par an. Et les personnes qui sont isolées, c'est-à-dire où il n'y a pas de famille et pas de financement, ça représente environ 200 convois par an. Donc si on le met en proportion des 17 000 décès, c'est une proportion assez faible, hein, en fait. Hein.
Et il arrive qu'il y ait des inhumations sous X, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est la personne décédée.
Ce qu'on appelle les inhumations sous X, hein, donc c'est automatiquement des gens qui sont à l'Institut médico-légal. Je dirais, allez, on a une vingtaine de cas par an à Paris.
Vous avez parlé de réquisition. Sur quel périmètre géographique vous intervenez ? Est-ce que c'est uniquement Paris ?
Alors, nous, on intervient sur le 75, le 92, 93, 94. Voilà, on travaille, nous, en périphérie de notre zone d'intervention, de manière à être rapide, parce que ce qui compte dans cette intervention, c'est d'être vite sur place pour pouvoir libérer l'officier de police judiciaire qui reste avec le défunt jusqu'à temps qu'on vienne l'enlever. Donc du coup, si on met 5 heures à intervenir, c'est un peu compliqué pour la police. Donc il faut absolument qu'on ait un périmètre d'action relativement court pour intervenir vite. On a une quarantaine de personnes qui sont habilitées à faire ces interventions. Et on a 16 personnes qui sont dédiées exclusivement à ces postes-là. Le jour, la nuit. Le jour, généralement, les équipes partent à 2. Elles partent à 3 personnes si on est informé que le corps fait plus de 100 kilos. Et la nuit, systématiquement, les équipes partent à 3 personnes. On intervient en moyenne en moins de 24 minutes entre le moment où on est appelé et le moment où nos opérateurs sont sur le lieu où la personne est décédée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Paris, le 93 et le 94, on fait 3000 réquisitions par an. Donc vous voyez que sur les 3000 réquisitions par an, on arrive à une cinquantaine ou une soixantaine de défunts qui sont abandonnés, entre guillemets, parce qu'on avait tendance à les appeler comme ça, qui sont surtout isolés, hein, parce qu'ils se sont souvent abandonnés eux-mêmes.
C'est vrai qu'en termes de proportions ou de chiffres, c'est pas très élevé, mais derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines, ce sont des histoires, et ça me tenait à cœur d'en parler avec vous et de remettre ces hommes et ces femmes dans la société, en fait. Et j'aimerais juste faire un aparté au sujet de l'Institut médico-légal, où donc les corps sont déposés. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que cet institut, qu'est-ce qu'on y fait et à quoi il sert?
C'est là où se pratiquent toutes les enquêtes d'essais, les autopsies, les examens de corps, etc. Un institut médico-légal dépend de la préfecture de police. Donc, quand la police découvre un défunt, donc elle va nous appeler, puisqu'on est titulaire de ce marché, pour les parquets de police. Et donc, on va transporter les défunts à l'institut médico-légal. Une fois que les personnes sont à l'institut médico-légal va faire les recherches de famille avec la police. Donc, quand c'est dans le cadre d'une enquête, la plupart du temps, on connaît l'identité, etc. Et puis, il y a quelques cas où on retrouve des gens chez eux, sans famille, sans personne. Donc, dans ce cas-là, ils nous demandent de procéder à l'inhumation par voie administrative. Voilà. Donc, les défunts restent dans les chambres, restent à l'Institut médico-légal, donc dans la chambre mortuaire de l'Institut médico-légal. Et si c'est dans les hôpitaux, c'est pareil. Ils restent dans les hôpitaux, dans les chambres mortuaires. Donc, ils sont conservés tout à fait décemment dans des équipements qui sont faits pour, hein, conservés par le froid. Donc, voilà.
Et alors, tous ces défunts pris en charge, où est-ce qu'ils sont inhumés ?
Les défunts sont inhumés dans les terrains gratuits pour une durée de 5 ans. Il n'y a que pendant 5 ans, la ville n'y touche pas. Au terme des 5 ans, elle peut reprendre ses concessions, c'est-à-dire exhumer le défunt, et donc soit le mettre dans l'ossuaire, soit faire une crémation, disperser les cendres, en fonction des choix qu'elle pratique. Et bah, une fois que le corps est dans un ossuaire, il n'est plus identifié, on ne peut plus récupérer. Et s'il y a une crémation avec une dispersion, c'est plus possible non plus. Mais pendant toute la durée des 5 ans, la ville garantit qu'on ne touche pas au corps. Donc si une famille se manifeste, elle fait jouer ses droits et son lien d'identité ou de famille ou les volontés du défunt qui auraient pu être découvertes plus tard. Et elle peut récupérer le corps et procéder à une crémation, une inhumation dans une sépulture ou autre chose.
Et ce sont des sépultures individuelles ?
Ce sont des concessions individuelles. Oui, les fosses communes n'existent plus depuis 1904. Hein. Donc il y a des terrains gratuits, donc qui sont dans des caveaux en béton individuels, dans des endroits paysagers. Et vous avez aussi des terrains gratuits d'une durée de 5 ans, pareil, sur des terrains engazonnés. Donc en pleine terre, terrains engazonnés. Mais ce sont toujours des sépultures personnelles individuelles.
Alors, où est-ce qu'une famille qui voudrait se renseigner pour retrouver un ou une défunte qui aurait été inhumée par les services de la ville de Paris, où est-ce qu'il faut se renseigner ?
À Paris, vous avez le service central des conservations. Donc, vous allez pouvoir solliciter le service des conservations pour savoir si telle personne a été inhumée à Paris. Voilà. Idéalement, il vaut mieux avoir quand même une année, parce que sinon, vous imaginez le nombre de recherches, donc ça peut être extrêmement long. Mais vous avez un service qui va vous dire sur Paris si effectivement la personne a été inhumée sur un cimetière parisien, intra ou extramuros. Mais si vous ne savez pas dans quel cimetière la personne est, il faut que vous contactiez tous les cimetières de France, quoi. Enfin, c'est monumental. Alors, peut-être qu'un jour, on aura une centralisation de tous les registres d'inhumation en France. Pourquoi pas, hein?
Est-ce que vous formez le personnel des structures d'accueil, par exemple, pour qu'ils informent les personnes démunies ou isolées de ce qui existe pour elles ?
Non, je ne sais pas. Je pense que ça dépend des structures. Il y a certaines structures qu'on connaît bien, par exemple les Petits Frères des Pauvres, avec lesquels on travaille donc depuis longtemps. Et on fait parfois des formations sur ce qui existe en termes de prestations sociales pour les personnes lorsqu'elles décèdent, de manière à ce qu'ils soient informés, parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de fantasmes hein, sur les gens qui sont pauvres, SDF, vont finir comme des chiens enterrés n'importe où. Donc non, on va les voir pour leur expliquer qu'à Paris, c'est fait, c'est bien fait, c'est fait dignement, de manière à ce qu'ils soient rassurés. Voilà. Et on a des gens, parfois, SDF, autres, qui viennent nous voir en nous demandant « Mais si je meurs, qu'est-ce qui va se passer ?»
Alors, pour les personnes pour lesquelles aucune famille, aucun proche n'a été retrouvé, vous collaborez avec le collectif Les Morts de la Rue, que d'ailleurs les auditeurs et les auditrices pourront retrouver dans la deuxième partie de cet épisode. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est un collectif qui a décidé d'accompagner ses défunts de manière à faire un rite d'accompagnement, donc un rite laïque hein, au moment de l'inhumation pour honorer ces personnes. Donc même quand on ne connaît pas leur identité, hein, parfois on procède à des inhumations, ce qu'on appelle sous X, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé l'identité de la personne, donc on procède quand même à une lecture de texte, à un hommage en présence de nos personnels, des fossoyeurs de la ville, de manière à redonner de l'humanité à ces personnes et qu'ils ne partent pas sans accompagnement. Et donc du coup, pour ce faire, on fait toujours des inhumations par quatre. C'est-à-dire qu'on va chercher quatre personnes à l'Institut médico-légal, ou on va chercher quatre personnes dans les hôpitaux, de manière à avoir deux inhumations par semaine pour que le collectif puisse déléguer des bénévoles qui nous accompagnent et fassent ce rite sur place. Donc on fait ces inhumations le lundi et le mercredi matin.
Et en plus de cet accompagnement donc lors des funérailles, je crois savoir que le collectif fait aussi des recherches d'identité. Est-ce que c'est vous qui leur transmettez les informations ? Comment ça se passe ?
Nous, on leur transmet toutes les semaines la liste des défunts que nous avons en charge hein, pour organiser les obsèques. On leur transmet dès qu'on reçoit la liste, de manière à ce qu'eux, de leur côté, fassent aussi les recherches. Parce que parfois, quand ce sont des gens SDF, ils sont quand même connus de l'église du coin où ils allaient faire la manche ou de la boulangerie qui les voyait toutes les semaines ou de la gardienne d'un immeuble, etc. Il y a des gens, du coup, qui se manifestent, des copains SDF qui se manifestent et qui souhaitent être présents aux obsèques. Et dans ce cas-là, on organise des obsèques avec eux. Et si la personne le souhaite, le SDF ou la gardienne, si elle le souhaite, on organise un convoi individuel. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, vous saviez que la petite dame était chrétienne, catholique, ou israélite, ou musulmane, et ben on va organiser les obsèques dans le respect du rite que vous lui connaissiez. On va le faire avec vous. Vous allez organiser la date, l'heure, etc. Et si vous le souhaitez, on va faire tout ça avec vous. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une possibilité qui est faite à Paris et qui est quand même assez exceptionnelle.
Oui, et du coup, ça permet de sortir la personne du convoi collectif pour lui offrir des obsèques personnalisées et individuelles. C'est bien de savoir que ça peut se faire. Alors, nous approchons de la fin de cet épisode qui nous a apporté beaucoup d'informations. Merci encore. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous poser une question et pas des moindres. Quel rapport pensez-vous que nous entretenons avec le corps mort, avec le cadavre ?
C'est une question fort complexe. On a un rapport à la mort qui est extrêmement complexe, qui est tabou. J'aime pas trop ce terme. En tout cas, la mort fait peur. Et on ne veut pas en parler, on ne veut pas la voir, on ne veut pas y être confronté. Et on est de moins en moins confronté à la mort parce que les personnes décèdent à l'hôpital. Donc, on les voit pas mourir. On vous appelle et puis on vous dit votre père est mort, votre mère est morte. C'est très rare qu'on accompagne le défunt au moment où il décède. Vous l'avez dans les soins palliatifs et tout le monde n'assiste pas non plus son défunt au moment des soins palliatifs. Hein. Donc on a un rapport vraiment, la mort, faut pas la voir, faut pas en parler. D'ailleurs, si vous demandez à des proches s'ils connaissent des noms de marques de sociétés de pompes funèbres, vous verrez que personne connaît aucune marque. On vous dit parfois une marque est très connue, mais alors que quand vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de marques partout. Donc on ne veut pas voir, on se ferme les yeux. Le nombre de personnes chez nous qui ne disent pas qu'ils travaillent dans le funéraire, parce que socialement on a toujours des réactions, c'est vous travaillez dans le funéraire. Puis généralement après on vous dit oui, il en faut bien. Mais avec un ton un peu compatissant. Tout le monde devrait envier mon job. Alors qu'on me dit, vraiment, heureusement qu'il y en a comme toi qui le font, parce que donc c'est incroyable. Donc on a ce rapport à la mort qui est très difficile. Et après, il y a le rapport au cadavre, qui à mon avis, là, un domaine beaucoup plus individuel et personnel. Parce que le rapport au cadavre, vous allez l'avoir principalement quand vous êtes proche du défunt et que vous allez faire le dernier adieu au défunt, c'est-à-dire au moment où on se sépare du défunt, où on constate vraiment qu'il est décédé avant de fermer le cercueil. Et donc là, je pense que c'est plus un rapport individuel de l'image qu'on avait de la personne quand elle était vivante et de constater l'effet que peut avoir la mort du coup sur son corps, quelque chose qu'on ne peut pas anticiper parce qu'avant de le vivre dans ses yeux et dans sa chair, on peut pas l'imaginer. Voilà. Et là, on a des réactions de familles qui sont extrêmement variées, extrêmement différentes, avec quand même beaucoup de déni. La réaction immédiate, c'est quand même souvent le déni. Enfin, le nombre de fois où on entend si le capitaine est pas bien remonté, attention, elle va avoir froid. Ou si on prend le cercueil et qu'on le bouge un peu, attention, on lui fait pas mal. Enfin, moi j'ai vu des gens au moment où on transportait les défunts avant mise en bière, c'est-à-dire quand on va chercher un défunt chez lui pour l'emmener en chambre funéraire, il y a pas de cercueil, donc on le met dans une housse, donc une housse blanche qu'on ferme avec une fermeture éclair. J'ai entendu des gens dire fermez pas jusqu'en haut, il va plus pouvoir respirer. Voilà, j'ai un petit grand-père un jour je faisais une permanence téléphonique, donc sa femme venait de décéder. Et donc, je lui dis, on vient la chercher tout de suite pour l'emmener en chambre funéraire. Je pensais lui rendre service en lui disant, je vais chercher votre femme tout de suite si vous voulez. On a des gens, nous, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, dans une demi-heure, j'ai quelqu'un chez vous pour emmener votre femme dans une chambre funéraire. Et au téléphone, il me dit, oh, écoutez, je suis désolée si ça vous embête pas. Est-ce que je peux passer mon dernier pas avec elle? Voilà. Donc, beaucoup de déni. Et quand on est avec des proches, je pense qu'on accepte le cadavre parce qu'il est représentatif de la personne qu'on aime. Voilà. Par contre, tout ce qui est après effet de dégradation du corps sont des choses qui sont très difficiles à accepter parce qu'on a le passage de la vie à la mort, qui a un certain nombre de stigmates sur le corps, mais qui ne sont pas qui sont pas forcément choquants. Si la personne est décédée, certes, mais elle reste elle-même, on la reconnaît quand même. Hein. Et par contre, quand vous avez des décès à l'institut médico-légal, des gens qui sont défenestrés ou des choses comme ça, enfin, c'est traumatique pour les familles. Et il y a ce besoin, très souvent, parce qu'il y a un déni hein, du fait que la personne soit décédée, donc il y a le besoin d'être confronté réellement au corps mort pour être sûr hein, que la personne est bien décédée. Et à l'institut médico-légal, ils font un travail extraordinaire sur la façon de pouvoir présenter un défunt sans gérer de traumatisme. Par exemple, si la personne est complètement défigurée, bah, ils vont simplement mettre une main qui va sortir de manière à ce que la famille puisse toucher la main, voir la main, et sans être forcément heurtée par les dégradations de la mort ou des circonstances de la mort.
Merci Sandrine Chapelle pour votre éclairage sur le sujet.
Ben, je vous en prie.
Et puis merci beaucoup de nous avoir permis d'en savoir davantage sur les services funéraires de la ville de Paris. D'ailleurs, je vous propose de retenir quelques clés de notre discussion. La première, c'est que la commune où une personne dépourvue de ressources suffisantes décède est dans l'obligation de prendre en charge les funérailles. La deuxième est que si vous avez une imposition de moins de 992 euros annuels, vous pouvez vous adresser à un service social de la ville de Paris et bénéficier d'une prise en charge financière à hauteur d'environ 80% des funérailles du proche que vous devez inhumer. La troisième, eh bien, les personnes dépourvues de ressources donc financières ou relationnelles ou les deux sont inhumées dans des concessions gratuites pour une durée de 5 ans. C'est un délai qui permet par exemple à une famille de se manifester pour récupérer le corps et pouvoir réaliser à ce moment-là les obsèques de leur choix. Et j'aimerais terminer par une quatrième clé, puisque Sandrine Chapelle nous a appris que si une personne se manifeste au sujet d'un défunt ou d'une défunte isolée, sans être forcément de sa famille, ça peut être un commerçant, ça peut être une personne sans domicile, etc., eh bien, la ville de Paris permet d'aider la personne en question qui se manifeste à organiser des obsèques individuelles et personnalisées. Voilà, je vous propose de retrouver la suite de cet épisode avec l'équipe du collectif des Morts de la Rue que je suis allée rencontrer et qui a accepté que j'accompagne des bénévoles à l'occasion de funérailles au cimetière de Thiès. Donc je vous donne rendez-vous dans l'épisode 15. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt !